Les petites chroniques de notre histoire avec Claire Van Kyn.
Claire Van Kyn, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous nos chers auditrices et auditeurs.
Nous voici dans nos studios de Roanne pour une nouvelle émission des petites chroniques du Roannais. Et aujourd'hui, vous avez un invité dans le studio.
Oui, absolument.
Je vous laisse le présenter.
Eh bien c'est gentil, effectivement, nous recevons avec grand plaisir Louis Pralut, puisque beaucoup de Roannais le connaissent, en ont entendu parler plus ou moins, tout ça, mais... On va poser tout ça, puisque aujourd'hui, Louis Pralut vient de nous sortir un joli petit livre. Donc, aujourd'hui, on va parler plus principalement, bien sûr, de Monsieur Pralut, de sa vie, de tout ça, mais aussi du livre qui s'appelle « Chronique d'une paroisse indigente » et il est question de Vendrange. Bonjour Monsieur Pralut.
Bonjour Madame Claire.
Alors dites-moi Monsieur Pralut, vous allez vous présenter un petit peu, vous nous dire un petit peu voilà, quel âge vous avez, si c'est pas indiscret. Tant que ça.
Non, je suis pas une dame, ça me fait rien.
Ça vous fait rien.
Pardon
ouais.
Pour les dames. Non, j'ai 74 ans, c'est tout.
Voilà.
Qu'est-ce que c'est?
Ah oui, mais ça, quand on a.
Et puis je suis natif de Vendrange, dans la Loire. Je suis fils d'agriculteur et quand j'avais 11-12 ans, j'ai pris idée d'entrer au petit séminaire pour être prêtre. À l'époque, il y avait des petites écoles cléricales qui étaient des véritables petites familles. Mmh. Et celle-là était à Villemontet, elle était tenue par les prêtres du Prado.
Ah oui, les prêtres du Prado, oui.
Et il y avait une suite à cette petite école cléricale qui était beaucoup plus majestueuse, c'était Notre-Dame de la Roche, au Sauvage.
Et c'était où ça alors?
Dans le Rhône.
Ah oui, au Sauvage.
Au Sauvage, au
d'accord.
Sauvage. Et alors, sur la colline, il y avait le petit séminaire du Prado.
D'accord.
Fondé par le père Chevrier. Mm. Et là, on était 140 séministes, là.
Ah oui.
C'était dans les années 59-60. Donc là, j'y suis resté 2 ans. Après, j'ai quitté le Prado, je suis entré chez les Salésiens. Le fameux ordre de Don Bosco.
Don Bosco, bien sûr.
Là, je suis entré là, dans une institution qui s'appelait l'institution Saint-Irénée, qui était à Caluire. C'était une très belle propriété avec un immense parc, jardin, il y avait même des poules, il y avait tout. Et puis, chez ces pères salésiens, j'y suis resté, je pense, 1 an. Et après, pour continuer les études, je suis toujours allé chez les Salésiens, mais cette fois, c'était à Lyon.
Et c'était le grand séminaire, là?
Non.
Non.
Non, c'était après, quand je suis entré à Lyon, c'était le... Ça allait jusqu'à la terminale, ça allait.
Ah, d'accord.
C'était au pied de Fourvière.
D'accord.
Ce qui s'appelle Saint-Just. Voilà, qui s'appelle Saint-Just. Donc, ça m'a fait des bonnes années. Que,
oui.
En tout et pour tout. Après, j'ai terminé, après, avant de quitter ce milieu, en fait, j'ai terminé au petit séminaire de Charlieu. Qui, lui, n'était pas dans un ordre religieux, mais qui était diocésain. Voilà. Et puis, il n'y a pas eu de conclusion, parce que je n'ai pas été prêtre. Voilà, j'ai changé de voie.
Oui, vous avez changé de voie. Il y a une raison qui a fait que, ou c'est simplement que ce n'était pas votre...
Oh, il y en a sans doute plusieurs.
Oui.
D'abord, une raison pratique et immédiate, c'est que j'ai été malade.
Ah, d'accord.
J'ai une double bronchopneumonie.
Ah oui.
Qui a duré quand même, qui m'a tenu quand même pendant 1 an à peu près.
Uh-huh.
Après, j'ai eu un double souffle au cœur.
Uh-huh.
Bon, ça veut dire que j'étais pas costaud, comme on dit.
Oui, voilà. Pas assez pour faire un bon curé de campagne.
Il faut croire. Pourquoi? Quoique, en dernier lieu, c'est pas le curé de campagne que je voulais être, c'était... Ah. Je voulais être franciscain. Il y avait un très beau couvent de franciscains, pas loin, à Fourvière. Et j'y allais, j'avais pris un père spirituel chez eux, et j'y allais une fois par semaine. Les Salésiens me faisaient les gros yeux.
Ah.
Ils me disaient « Oh, tu nous trahis,
oh là là,
tu vas chez les franciscains,
qu'est-ce que tu
vas faire chez les franciscains ?»
C'est pas possible.
Et ça me plaisait bien, la vie des franciscains, c'était une vie en même temps conventuelle, avec des offices, et en même temps pastorale.
Oui, missionnaire.
Puisque les pères avaient de l'apostolat dans la ville.
On peut rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement ce que sont les franciscains, c'est Saint François d'Assise.
Voilà,
voilà.
Saint François d'Assise, voilà. Donc c'est la pauvreté, c'est l'humilité. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, mon père spirituel franciscain m'avait dit, tu sais, chez nous, il faut être pauvre, même dans le vocabulaire.
Ah, d'accord. Oui, le franciscain, c'est vraiment l'ordre de l'humilité, de la pauvreté. Le poverolo, hein, c'est oui. Le poverolo, c'est Saint-François d'Assise, le poverolo, qui a donné aussi les Clarisses avec Sainte-Claire
absolument,
à Assise. Hein.
Absolument.
Ouais. D'accord.
Il y a eu, oui, pour rappel, alors dans l'histoire ancienne, il y a eu à Rouen, peut-être pas des franciscains, mais des capucins.
Ah,
donc, c'est les frères des franciscains.
Oui, ceux qui ont la capuche.
La grande capuche.
La grande capuche, oui.
Et la barbe.
Et la barbe.
Ah oui, les capucins ont la barbe.
Oui.
Les franciscains n'ont pas, mais il faut bien qu'ils se distinguent.
Oui, tout à fait.
Donc, allez, hop, on leur met une barbe et on allonge le capuchon et ça fait un capucin.
Eh bien, oui, c'est ça. Mais sur Rouen, on n'a pas eu de Clarisse, hein, je ne pense pas. Hein. On en a à Montbrison, et toujours actif d'ailleurs. Il y a un monastère de Clarisse à Montbrison qui est toujours très, très, très actif.
Hein. Oui, oui, qui date de plus de 500 ans.
Mmh. Et alors après, quel votre parcours un petit peu après toutes
donc
ces
après,
études
donc, je suis sorti de ce parcours.
Mmh.
J'en suis sorti, j'avais 20 ans. Oui. Alors là, plusieurs prêtres m'avaient dit « tu devrais être journaliste bon. ». Pourquoi ? Sans doute parce que j'avais le goût de l'écriture, puis j'avais le goût de la question, certainement.
Mm-hmm.
Je me rappelle que je passais des récréations avec un père, qu'il soit salésien ou qu'il soit pradosien ou qu'il soit n'importe quoi. Je passais ma récréation à lui poser des questions. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils avaient déduit que...
Oui, que ça ferait un bon journaliste.
Que j'aimais bien m'interroger, interroger les autres,
oui,
surtout.
Oui, interroger les autres.
Donc, on ne devient pas journaliste comme ça, en claquant du doigt. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Certainement.
Donc, en attendant d'avoir une place de journaliste, j'ai fait des petits boulots.
Mm-hmm.
J'ai travaillé avec mon père dans une distillerie artisanale, qui était rue Jean Jaurès, chez Consillon. C'était tout à fait artisanal. On fabriquait les sirops avec des pelles de sucre, et on remuait, et on recevait les dames on peut dire qu'elles déboulaient de la montagne avec leur myrtille, leur cassis.
Ah oui.
C'était vraiment des produits plus que
naturels.
Oh là là.
Oh là 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 là.
Quelle belle époque.
Oui.
Et ça m'a beaucoup plu, c'était très, très intéressant. Et puis là aussi, le patron m'a dit, vous n'avez pas pensé être journaliste ?
Ah bah décidément.
Ah, je lui ai dit, ah bah là, vous confirmez quelque chose. Hein.
Mmh.
Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Qu'est-ce que je confirme ? Mais on me l'a déjà dit 3-4 fois. Donc, si vous êtes la cinquième voix qui me le dit, il faut que j'y aille.
Ah, c'est parti comme ça ?
Oui.
Ah, c'est dingue ça.
Et là, j'ai été voir M. Fillon. Alors, M. Fillon était très connu à Rouen. C'est lui qui avait fondé à Rouen l'édition de L'Essor. L'Essor était un journal diocésain de Lyon.
Mmh.
Et Monsieur Fillon, qui avait été journaliste au Journal de Rouen encore, oui, c'était encore le Journal de Rouen.
Ah oui.
Après, a décidé de créer une édition de L'Essor à Rouen.
Mm-hmm.
Il a créé cette édition dans les années 50, je pense.
Mm-hmm.
Donc j'ai été le voir et il m'a dit mais oui, ça peut m'intéresser, ça. Oui. Et puis, je pense que ça a été fait peut-être au bout d'un an, c'est possible, oui, je ne me souviens pas. En tout cas, en 70, j'ai fait mon premier article en 70. Et alors, quelle coïncidence, mon premier reportage, c'était Le pèlerinage à Notre-Dame de la Roche.
Tiens donc, il n'y a pas de hasard, comme on dit.
Donc, j'étais vraiment heureux de le faire.
Ben oui, puis là, vous étiez vraiment dans votre élément.
Absolument.
Mmh.
Et puis ensuite, l'été est arrivé, alors est-ce que c'est cette année-là ou l'autre année, je ne me souviens pas. L'été est arrivé, puis M. Fillon me dit comme ça, de but en blanc, voilà, eh ben, je pars en vacances, je vous donne les clés. Hein ? Je lui dis, mais les clés, oui, vous tiendrez l'agence pendant que je ne serai pas là.
Ah ouais.
Bon, ben, je lui dis, ne me laissez pas tout seul, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que je ne connais pas. Alors il venait me voir un après-midi par semaine.
Ouais.
Et puis voilà, j'ai mis le pied là-dedans.
Ah oui, et ça n'a pas. Et après, ça ne s'est jamais arrêté. Vous avez été journaliste toute votre vie.
Oui, après, j'ai tout le temps été. Je suis parti pendant 5 ans parce qu'il y a un journal qui se créait dans la Loire.
Ah
ah. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté. Ce journal s'appelait Loire Matin. Il dépendait du groupe Le Dauphiné Libéré.
Ah oui. Mmh.
et ils voulaient s'installer dans la Loire. Et à ce moment-là, bah, ils m'ont recruté, pour ainsi dire, pour créer une agence à Feurs.
Oui.
J'y suis resté 5 ans.
Ah d'accord, quand même, oui. Donc vous avez délaissé l'essor momentanément.
Mais je n'ai pas rompu avec l'essor. J'ai continué de faire des piges à l'essor.
Ah oui, d'accord.
J'ai pas rompu. Mmh. Puis d'ailleurs, ils m'ont dit, mais vous savez, hein, si vous voulez arrêter à Loire-Matin, vous revenez tout de suite. Hein.
Voilà, ouais.
Mais ce qui est arrivé.
Parce qu'après, ça s'est arrêté.
C'est pas moi qui ai quitté Loire-Matin, c'est Loire-Matin qui nous a quittés.
Ouais.
Parce qu'il a disparu.
Voilà. Oui, voilà, ça, ça n'a pas... Ça fait
donc
un peu
j'ai dit à M. Fillon, coucou, me revoilà. Oui. On a enterré Loire-Matin.
Eh oui, eh oui. Et du coup, vous avez fait toute votre carrière
après,
en tant que journaliste à l'essor.
J'ai plus bougé, après j'ai plus bougé de l'essor.
Le parcours de Louis Pralu avec Claire Vankin sur RVR.
Nous allons donc attaquer la deuxième partie de notre petite émission. Et on va parler principalement du livre, hein, puisque vous êtes quand même là pour ça, hein, Louis.
Ah bah avec plaisir.
Ce joli livre qui s'appelle, je le répète, Chronique d'une paroisse indigente, donc 1614 hein, jusqu'en 1939. Alors, ce petit livre, vous allez nous en parler bien longuement, vous allez nous expliquer tout ça. Donc, vous nous avez bien expliqué que vous étiez natif de Vendrange, donc bien sûr attaché à votre village, à votre paroisse de Vendrange, et c'est sans doute ce qui vous a motivé pour écrire, parce que j'ai envie de vous dire, pourquoi avoir eu envie d'écrire sur ce sujet en particulier, vous auriez pu traiter la commune de Vendrange dans son évolution ou sa démographie, mais vous avez préféré justement vous en tenir à l'histoire de la paroisse.
Oui, absolument. Tout simplement parce que j'ai eu des documents en main, des documents authentiques de la paroisse. J'ai eu un curé qui était du Prado. Décidément, le Prado me suit.
Oui.
Un curé de Vendrange qui était du Prado, qui s'appelait le père Rosier, qui était littéralement adoré par tous les paroissiens.
C'était en quelle période ça ?
60.
Dans les années 60, ouais. D'accord, oui.
Et un jour, ce père Rosier, il me dit, viens donc, je vais te faire lire les registres paroissiaux.
Ah.
Donc j'y suis allé et j'ai pris des notes sur les registres paroissiaux. Évidemment que je ne les ai pas tous copiés parce que
c'était colossal.
Très, très, très important. Ah, oui. Mais j'ai pris quelques éléments qui étaient intéressants, notamment qui nous renseignaient sur les professions des gens.
Ah oui.
Sur à quel âge ils se mariaient, avec qui ils se mariaient, quel métier ils exerçaient, à quel âge ils mouraient, à quel âge ils étaient baptisés. Enfin, il y avait plein de petits renseignements pratiques sur les gens. Ça m'a beaucoup intéressé. Puis alors après, j'ai eu d'autres documents qui étaient, entre autres, le cahier de la fabrique.
Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fabrique ? Justement, je voulais vous poser la question.
Alors, la fabrique, c'était un organisme, un organisme officiel de l'Église. C'était vraiment officiel, puisque lorsqu'on entrait comme fabricien, il fallait se présenter, il fallait avoir une bonne moralité, il fallait être quelqu'un de bien. C'était ni plus ni moins l'organe de gestion de la paroisse. Ils étaient, je pense, une douzaine. Le père curé était pas officiellement, pas toujours le président, non, non, non. Mais il y était de droit, bien sûr, mais on y trouvait le maire.
Ah oui.
C'est là où j'ai noté que la mairie et la cure marchaient tout le temps main dans la main. Tout le temps.
Ah.
À la fabrique, on trouvait les deux. Le maire était là.
Bizarrement, on pourrait presque dire, parce que souvent, on a un petit peu l'image du curé et du maire qui sont un petit peu...
Surtout qu'on aurait pu, penser ça, puisqu'il y avait eu quand même la Révolution française. Qui, à Vendrange, a fait beaucoup, beaucoup de mal,
puisqu'on
a exécuté le curé de Vendrange.
Oui.
On l'a exécuté.
Oui. Comme malheureusement, comme on pourrait dire, comme beaucoup d'autres. C'était bien sûr avec Javogue et cette terrible terreur à ce moment-là dans le forêt. Quoi.
Et puis il y avait d'autres, j'ai trouvé d'autres documents. C'était le bureau de bienfaisance. Le bureau de bienfaisance, c'est l'ancêtre de notre CCAS. Alors là aussi, on trouvait des gens de la paroisse et de la mairie.
Main dans la main.
Ah, complètement.
Et ça, c'est formidable.
La preuve, c'est que le siège était à la cure.
Oui.
Alors que ce n'était pas d'église. Hein. Ce n'était pas un mouvement d'église. Pas
c'était
du tout.
Quasiment un mouvement laïque, mais...
Mais avec la cure.
Enfin, tout le monde, s'entendait bien, quoi. Voilà, d'accord.
Puisque là aussi, on trouve... Le président peut être le maire, le vice-président, c'est le curé, ou le contraire. Ils alternent un peu les rôles.
Et c'est à partir de quelle année, ça?
Là, c'est dans les années 1800.
Dans les années 1800, ouais. D'accord. Et ça a duré jusqu'à quand, cette fabrique?
Ah, la fabrique, ça a duré, j'allais dire, jusqu'à notre époque, pas tout à fait, mais enfin, jusqu'au Concile.
D'accord.
Peut-être.
Alors,
même un
est-ce que cette histoire de fabrique, c'était spécifique à Vendrange?
Non,
c'était partout.
Dans l'église, de toute la, en tout cas en France, dans toutes les paroisses, c'était comme ça.
C'était comme ça dans toutes les paroisses. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ignorent complètement ce fait-là, la fabrique.
Et c'était tellement un organe officiel que lorsqu'un nouveau curé arrivait, il devait se présenter à la fabrique.
D'accord.
Et il devait montrer à la fabrique sa nomination, j'allais dire sa bulle de nomination.
D'accord.
Il devait la montrer à la fabrique. Et donc la fabrique notait dans ses cahiers, nous avons reçu tel jour, voilà, l'abbé un tel, voilà, qui nous a présenté.
Voilà, voilà. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, c'était quelque chose de tout à fait officiel. Et,
Et puis alors, il y a aussi un élément qui était plus que passionnant. C'était le journal d'un curé de Vendrange, un journal authentique, d'un curé de Vendrange qui est resté 41 ans et qui s'appelait l'abbé Morel. Tous les ans, il faisait un petit récapitulatif des événements de l'année.
Ah voilà.
Tous les ans.
Eh oui.
Alors là, j'avoue qu'on se régale, parce qu'il parle de tout, non seulement de Vendrange.
Oui.
Et des pommes terres qui pourrissent.
Oui. De la vie, quoi.
Et du vin qui n'a pas été bon.
Ah,
regarde, le vin est rare cette année, il va augmenter.
Ah.
Les pommes, alors cette année, excellente récolte.
Oui, il raconte la vie des gens.
Ah, complètement.
Ouais.
Des pauvres gens.
Des pauvres. Et heureusement qu'on a eu ces registres paroissiaux tenus par des curés de l'époque, parce qu'il y avait quand même peu de gens qui savaient lire et écrire à l'époque. Donc, mis à part l'instituteur et mis à part le maire, le notaire, enfin les notables et comme ça, c'était souvent le curé qui notait tout. Hein.
Oui, oui.
On retrouve ça souvent dans les paroisses.
Oui, oui. Et là, il nous fait vivre les événements, alors on peut dire en direct, et je pense à la construction du tunnel de Vendrange. Ceux qui prennent le train, ils passent sous le tunnel de Vendrange.
Et oui.
Et alors, l'abbé Morel raconte la construction de ce tunnel vraiment d'une façon qui est très émouvante. Il parle des morts qu'il y a eu.
Et oui.
Des blessés, des malades. Et puis alors là, il met une petite appréciation de curé, en somme. C'est qu'il n'est pas content du tout, des 1200 ouvriers qui travaillent au tunnel de Vendrange.
1200 ouvriers.
Et qui sont répartis dans les villages alentours. Et voilà. Alors, d'après lui...
Pourquoi il n'est pas content?
La dégradation des mœurs, l'abandon de la pratique du dimanche, l'abandon des sacrements, l'addiction à l'alcool, d'après lui, ça vient de ces ouvriers qui, entre parenthèses, j'ouvre les guillemets, étaient plus mauvais les uns que les autres.
Oh, il est très sévère. Il était très sévère. L'abbé Morel?
Oui.
C'est-à-dire quelle année, ça?
Après 1880.
Oui, à peu près, quoi, voilà.
Après 1880.
Donc, autrement dit, ces pauvres ouvriers du tunnel, ils avaient tous les maux de la terre qui leur tombaient dessus.
Écoutez, quand on dit ça, ça vous surprend.
Oui, c'est surprenant, c'est vrai. Et alors, j'ai envie de vous poser une question aussi. Est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment particulièrement attaché à votre village, à Vendrange, quoi, qui vous a paru nécessaire de raconter l'histoire religieuse? Est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment particulièrement attaché à votre enfance, à votre village, et aux gens de Vendrange? Comment on les appelle d'ailleurs, les gens de Vendrange?
Oh, les Vendrangeois.
Les Vendrangeois. Alors, êtes-vous particulièrement... C'est pour ça. Alors, vous êtes un Vendrangeois, du coup.
Oui, bon. Absolument. Écoutez, plusieurs fois, plusieurs personnes de Vendrange m'ont taquiné, mais presque avec insistance. Mais quand est-ce que tu écriras quelque chose sur Vendrange?
Eh ben voilà.
Personne n'a jamais écrit sur Vendrange.
Et voilà.
Alors, est-ce que tu y penses? Alors, est-ce que ça vient? Enfin, oui, vraiment, on m'a, pour ainsi dire, tarabusté, comme on dit, pour que j'écrive quelque chose sur Vendrange. Alors, à la fin, quand on me le dit sans arrêt, je dis, tiens, sans doute qu'il faut le faire.
Bien sûr.
Ben, qu'est-ce que j'ai regardé? Dans les archives que j'avais, j'avais ça. Ben, j'ai dit, mais c'est bien intéressant tout ça. On apprend plein de choses sur la vie des gens, sur la mentalité de l'époque.
Bien sûr.
Oui, ben, on va faire ça. Et les gens sont très contents.
Et vous vous êtes lancé comme ça, du coup.
Oui. Ils sont très contents.
Beaucoup de travail, de recherche, bien que vous ayez eu déjà en main pas mal de documents, j'entends bien.
Les seules recherches que j'ai eu à faire, ça concernait un curé des années 30. Qui est mort en 1939 et qui était célèbre parce qu'il était botaniste très réputé, c'était l'abbé Rochette.
Ah oui, l'abbé Rochette qu'on retrouve dans le livre.
Et qui est en couverture.
C'est lui qui est en couverture.
Qui est en couverture.
D'accord. Avec, alors, puisque nos auditeurs ne le voient pas, hein, alors je vais commenter la couverture. Donc, c'est un fond un petit peu sépia, on va dire. C'est un fond sur sépia. Et alors, on voit un bon vieux curé avec sa soutane.
Oui, oui.
Hein, sa soutane qui descend pratiquement jusqu'à terre. À ses pieds, il a un bon petit chien qui est couché.
C'est le chien Vidocq.
Oh, ben il s'appelle Vidocq en plus. Voilà. Et alors là, la photo de ce petit père curé est prise devant la porte de l'église de Vendrange. Hein, voilà, ça je suppose. Et alors, sur la quatrième de couverture, on retrouve donc... est-ce que c'est lui aussi qui est sur la quatrième de couverture avec...
La dernière gouvernante.
Sa dernière gouvernante.
Non, c'est pas la dernière, pardon. Non. C'est celle qui est restée le plus longtemps avec lui.
Voilà, alors là c'est pareil, je la décris pour nos auditeurs. Une petite dame habillée toute de noir vêtue, comme on pourrait dire, avec des grandes robes longues qui descendaient jusqu'à terre. Hein, voilà. Et le petit père curé, là, il est assis avec son chapeau, il a un chapeau sur ses genoux. Donc ça pose tout de suite un petit peu la période, hein, l'époque.
Ah oui,
hein.
Bien sûr.
La couverture est très jolie, elle est toute simple et je la trouve très jolie parce que voilà, on voit tout de suite, on comprend tout de suite le contenu du livre quand on voit la couverture.
Et ce bon curé était un farceur et un blagueur.
Eh ben ça arrive aussi ça.
Et alors,
heureusement.
Et avec cette bonne là,
oui,
il s'amusait à faire des petites blagues aux invités. Quand il avait des invités à table, y compris quand c'était le vicaire général qui venait, eh bien, il parlait en latin à la bonne.
Oh.
Et elle lui répondait en latin.
Elle connaissait le latin.
Il lui avait appris quelques phrases par cœur.
Oui.
Il les plaçait au bon moment.
Oui.
Et elle savait ce qu'il fallait répondre. Alors, inutile de dire les yeux du vicaire général.
Ouais.
Ou les yeux de, je sais pas...
Des personnes invitées.
Personnalité ou de quelqu'un du village, quand il entendait la bonne parler latin, répondre en latin. Alors là, il ne comprenait plus rien.
Alors, si vous permettez, moi j'ai une anecdote très drôle et ça va faire rigoler tout le monde. J'ai connu Alors moi, vous savez, j'ai vécu quelques années dans le Jura. Et alors, il y avait un vieux prêtre qui s'appelait le père Sarrazin, qui est décédé maintenant. Il est décédé d'ailleurs à plus de 100 ans, ce brave homme. Et c'était un homme qui était très, très spécial et il ne voulait pas entendre parler de bonne du curé. Il ne voulait pas. Et l'évêque le tarabustait pour qu'il ait une bonne. Et il disait, j'en veux pas, avec son accent jurassien. Je n'en veux pas. Oh. Et puis un jour, l'évêque lui présente une dame en lui disant, écoutez, cette dame ferait vraiment votre affaire. Il faut écouter franchement. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas l'âge épiscopal, mais c'est une dame vraiment de très bonne moralité. Enfin, blablabla, blablabla, blablabla. Et le curé qui répond à l'évêque, Monseigneur, cette brave dame n'a peut-être pas l'âge épiscopal, mais elle en a la laideur.
Ouh là là, merci. Merci pour le cadeau. Hein.
Donc, vous voyez, des curés qui avaient le sens de l'humour et qui aimaient bien rigoler, c'est vrai, heureusement, il y en avait, et bien, tant mieux, heureusement. Donc, oui, effectivement, comme on le disait, ce livre vraiment fourmille, on peut dire, d'anecdotes très précises, avec preuves à l'appui, hein, bien sûr, des dates, beaucoup, etc. C'est vrai que je pense que vous avez, moi qui sais ce que c'est que l'écriture et les recherches, vous avez vraiment fait un travail de fourmi. Et combien de temps avez-vous mis pour regrouper toutes ces infos. Alors, vous nous avez déjà un petit peu expliqué où vous aviez déniché tout ça, mais combien de temps pour regrouper, pour remonter le puzzle ? Comment ça s'est passé ?
Pour mettre en forme, pour classer et pour faire un plan.
Oui, déjà.
Ce que je disais, bon, voilà, il y a tout ça. Comment on va présenter tout ça ?
Et oui.
Il faut un ordre, il faut une logique. Et bien, j'ai dit, bah tiens, on va faire une chronologie. On va faire ça chronologiquement. Donc, je pars de l'information la plus ancienne que j'ai.
Oui, donc...
celle de 1614.
1614, voilà, 1614.
Alors, de quoi il s'agit en 1614 ? Tout simplement de la visite pastorale de l'archevêque de Lyon.
C'est le 20 juin 1614, vendredi 20 juin 1614.
Ouais.
Ouais, c'est la première, on va dire la première page du livre. Quoi,
ouais.
Hein.
Ouais, oui, ça commence comme ça, chronologiquement.
D'accord.
Donc, il y a une autre visite après de l'archevêque de Lyon, qui est vers la fin des années 1600. Et puis après, on arrive aux années 1700.
Mmh.
Et là, c'est la Révolution. Donc là, c'est l'épisode, évidemment, de notre curé qui est arrêté et qui va être guillotiné. Après la Révolution, eh bien, on arrive dans les années 1800. Donc là, c'est la remise en route de la paroisse, du conseil de fabrique.
Pendant la Révolution, ça existait encore, la fabrique ? Pendant cette période,
ça n'existait pas.
Non, d'accord.
Non.
Et il était guillotiné, on comprend que c'était parce que c'était un prêtre, mais il y avait d'autres raisons, est-ce que...
Parce qu'il a refusé de prêter serment.
D'accord,
voilà.
D'accord.
Puisque tous les prêtres étaient obligés de prêter serment, et ceux qui refusaient, ils étaient arrêtés.
À la Convention.
Voilà. Donc soit ils se cachaient, il y en a beaucoup, la majorité allait se cacher.
Oui.
Et puis il y en a d'autres qui persévéraient, ils disaient non, je resterai.
Oui.
Mais si je suis arrêté, je serai arrêté, mais je resterai.
Mmh.
Et ça a été son cas.
D'accord.
Il est resté.
Et vous nous aviez dit tout à l'heure qu'il a été arrêté avec 19 personnes, 19 personnes.
Oui.
Plusieurs personnes de Vendrange.
J'ai le nom, mais je ne sais pas qui, je sais pas qui c'est.
Et parce que c'était des paroissiens qui soutenaient le curé, des choses
bien
comme
sûr.
Voilà, c'était ça. Hein.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y avait des messes clandestines, des choses comme ça qui se faisaient dans les fermes, dans les campagnes un peu reculées ? Non.
Non. Parce que notre curé est resté jusqu'à son arrestation. Il n'a pas quitté sa paroisse. Un autre curé est venu après, qui est resté aussi.
Et il était guillotiné à Feur ?
Je ne me souviens pas si c'est à Feur ou à Lyon.
Ou à Lyon, peut-être. Oui, il y en avait pas mal qui se partaient sur Lyon aussi.
Mais je pense que c'est à Feur.
Alors, on peut rappeler aussi à nos auditeurs qu'à Feur, justement, il existe un monument qui ressemble d'ailleurs un petit peu, on va dire, à un temple grec ou romain avec des colonnes qui s'appelle la Chapelle des Martyrs. Et c'est à cet endroit-là que la guillotine avait été placée et où... comme ce pauvre vieux curé et tant d'autres ont été guillotinés. Et en souvenir, en mémoire justement de tous ces gens qui ont été guillotinés pendant la Révolution, ils ont construit cette chapelle des martyrs avec le nom des guillotinés.
Absolument.
C'est très intéressant.
Vous savez, cette chapelle qu'on a appelée la chapelle expiatoire a été voulue par le roi Louis XVIII.
D'accord.
C'est le roi Louis XVIII qui a demandé, partout où il y avait eu des martyrs de la Révolution,
oui,
qu'on construise une chapelle.
Ça, c'est intéressant à savoir aussi. Donc...
Donc on arrive après aux années 1800.
Oui.
Donc là, on arrive au règne de Louis-Philippe.
Oui.
Louis-Philippe, et puis après, ce sera le Second Empire avec Napoléon III.
Oui.
Et là, c'est la religion d'État. Donc les choses sont plus faciles, ces religions d'État. Puisqu'on verra dans le livre que plusieurs fois le conseil de fabrique demande de l'argent à Louis-Philippe.
Oui.
Et Louis-Philippe envoie de l'argent.
Et il donne de l'argent.
Voilà, de même, il demande à Napoléon III. Mm-hmm. Et Napoléon III envoie de l'argent.
Alors Napoléon III, il faut aussi, on peut le rappeler aussi pour nos auditeurs, son bras droit, c'était donc le duc de Persigny. Hein, qui est donc natif de Saint-Germain-l'Espinasse et qui a fait beaucoup, qui a beaucoup œuvré pour le Forez. Puisqu'il n'a pas oublié sa terre natale. Est-ce que, par exemple, vous avez entendu dire que, justement, il y a eu une intervention plus particulière de la part du duc de Persigny?
Non, je n'ai pas trouvé de traces de ce côté-là.
D'accord.
Par contre, ce qui m'étonne encore aujourd'hui, et j'aurais bien avoir une réponse. Pourquoi Monseigneur de Fort-Benjanson, qui était un évêque très célèbre à l'époque, royaliste, j'allais dire royaliste militant, est venu à Vendrange, a béni la chapelle du Sacré-Cœur et a offert un immense tableau du Sacré-Cœur. Comment il a pu venir à Vendrange?
Eh ben voilà. Allez dans
Alors là, c'est une énigme.
Hein. D'accord.
Oui.
Oui, parce que bon, Vendrange, c'est pas, je veux dire, c'est pas Rouen, c'est un petit village et qui déplace, on va dire, une personnalité, si on peut
dire
comme
ça. Puis un évêque qui faisait du bruit, hein.
Oui, c'est ça. Oui,
à qui on peut le comparer aujourd'hui, mais un évêque très politique, extrêmement politique, qui soutenait le roi Charles X. Et quand le roi Charles X a abdiqué, lui aussi a abdiqué.
Ah d'accord, donc il était vraiment...
Il a dit qu'il ne voulait pas être évêque dans la République.
Est-ce que la mémoire locale vous a aidé d'ailleurs, est-ce que les paroissiens de Vendrange se souviennent encore aujourd'hui de certaines anecdotes que vous auriez pu relater dans votre livre? Est-ce qu'il y a des vieilles personnes qui vous ont dit « Ah ben tiens, il y avait ceci, il y avait cela ».
Ah ben bien sûr, tout ce qui est écrit sur l'abbé... Le dernier en photo, l'abbé Rochette, ça vient tout des gens qui l'ont connu.
D'accord.
Ah, ça vient entièrement d'eux. Hein.
D'accord, d'accord.
Ah oui, oui, oui.
Il y a encore des vieilles personnes qui ont
Il y a déjà quelques années.
Hein. Oui, 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 d'accord. Mais aujourd'hui, non, ça y est, tout le monde est
disparu. Non, non.
Mais il y avait,
il est mort en 39, donc c'est trop vieux.
Ah oui, oui, c'est vieux.
Mais j'ai, oui, oui, j'ai glané beaucoup d'informations sur lui. À différentes époques, auprès des gens de Vendrange, oui.
D'accord. Ah oui, la mémoire locale.
Ah oui.
Et voilà, c'est très important, la mémoire locale. Et puis bon, c'est ça. C'est...
Et puis ma mère qui était de Vendrange m'en a parlé beaucoup.
Alors vos parents étaient tous les deux de Vendrange?
Ah non, mon père est de Coutouvre. De Coutouvre, oui.
Ah, d'accord. C'est
une vieille famille de Coutouvre chez mon père, parce que leur maison est de l'année 1500.
Donc, d'accord.
Ouais, c'est une vieille famille.
Vieille famille.
C'est ma mère qui est de Vendrange, voilà.
Oui. Et vous vivez toujours dans la maison familiale?
Et oui, j'ai gardé cette maison qui date de 1860.
Chargée d'histoire, bien sûr. Des... Hein Est-ce qu'il y aurait une anecdote en particulier, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimeriez raconter comme ça, en direct à nos auditeurs, quelque chose qui, pof, comme ça?
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé, vraiment beaucoup, parce que je n'aurais pas imaginé que ça puisse exister.
Oui.
C'est que dans ces années-là, 1800 et quelques, les gens allaient tous à la messe le dimanche.
Oui.
Il n'y a pas d'histoire.
Oui.
Même si on ne croyait pas, on était catholique.
Oui.
On allait à la messe.
Mm.
Les hommes comme les femmes.
Oui.
Mais les hommes, bon... Ils voulaient bien un petit peu de messe, mais pas trop. C'est-à-dire qu'ils allaient d'abord au bistrot.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Donc, l'avant-messe durait des fois un petit peu longtemps.
Bah oui, puis après, il y avait l'après-messe aussi.
Puis alors, il fallait quand même y aller. Alors, au bout d'un moment, ils partaient avec leur chaise du bistrot. Ils allaient à la messe en emportant leur chaise.
Justement.
Et comme ils le faisaient tous, au bout d'un moment... Le père curé ou des gens, plutôt que ça venait des gens de la fabrique.
Oui.
Ils ont commencé à dire, ça ne peut pas aller, il faut arrêter ça.
Ah.
Ça ne peut pas aller. Alors le père curé a décidé, on va les sanctionner. Il ne faut pas que ça continue. Alors il y avait deux gardiens à la porte de l'église.
Mm-hmm.
Et quand ils voyaient arriver un brave paysan avec sa chaise du bistrot, ils lui disaient, non. La première fois, on saisissait la chaise à moitié. La deuxième fois, on la saisissait complètement.
Une fesse sur la chaise.
C'est-à-dire qu'ils payaient l'amende.
Oui, parce que la chaise se payait à l'église. Il fallait savoir que c'est ça. On payait sa chaise quand on allait
Bien
à la
Bien sûr,
messe.
À l'année. Donc, il y avait le dimanche de Quasimodo, il y avait la mise aux enchères des chaises et des bancs.
Alors, c'est quoi le dimanche de Quasimodo?
C'est un dimanche avant Pâques.
D'accord.
Alors... Selon la longueur du banc, selon la largeur du banc, le prix était différent, mais on le mettait aux enchères.
D'accord.
Et le prix était fait aux enchères pour l'année.
pour l'année. C'est-à-dire quelqu'un, une famille par exemple, pouvait louer le banc là pour l'année. Et voilà, c'est comme ça que ça allait.
Voilà, alors il y avait différents bancs. Et il y avait le banc des enfants, il y avait le banc des... Le banc des adultes, il y avait, mais alors, plein de choses différentes. Les chaises étaient différentes, les bancs étaient différents. Il y avait les bancs qui étaient fermés, avec les plaques de cuivre.
Là, oui.
C'était plutôt la noblesse ou la bourgeoisie.
Voilà.
Et tout ça était à des prix différents.
Et oui.
Et mis aux enchères.
Mis aux enchères.
Et oui.
Ça a duré jusqu'à quand, cette histoire?
Je pense que ça a duré jusqu'après-guerre.
C'est de la folie. Puis, aujourd'hui, mais ça nous paraît complètement aberrant. C'est incroyable. Bon, comme je dis toujours, aussi bien vous, Monsieur Pralut, que moi, on aime l'histoire, on n'est pas là pour juger, ni rien du tout. Mais il y a des choses qui nous paraissent quand même tellement aberrantes, ça peut que nous faire sourire, quoi. Et qu'il fallait louer son banc aux enchères pour pouvoir aller assister aux offices, c'est dingue, quoi.
Il faut dire peut-être une chose, c'est qu'à l'époque, on cherchait par tous les moyens à faire 4 sous.
Oui.
Parce que, oui, il y avait l'entretien de l'église. Mmh. Il y avait aussi, ça a été le cas puisque les sœurs Saint-Joseph sont venues, les sœurs Saint-Joseph étaient payées par la cure. Il y avait beaucoup de choses étaient payées par la cure. Oui.
Et quand on est dans une paroisse comme Vendrange, qui est une petite paroisse, peu paroissien quand même. Bon, c'est une paroisse pauvre, très pauvre.
D'une pauvreté qui est inimaginable.
Voilà.
Là, j'ai vu dans le bureau de bienfaisance, on détaille les gens qui sont sans ressources.
Oui.
Et ben, vraiment, il y en a de tous les âges. Hein. Des gens sans ressources. Alors, on se mobilise.
Qu'ils n'ont pas de travail.
Soit qu'ils n'ont pas de travail, ou alors un travail qui est si peu rémunérateur.
Et oui.
Ils étaient mousseliniers.
Oui.
Donc, ils tissaient dans leur cave, et ça rapportait tellement peu.
Mais
quand il y avait des enfants, quand il y avait la belle-mère, quand il y avait la grand-mère.
Puis des grandes familles.
Et des grandes familles. Mm. Et quand l'une était estropiée, quand l'autre était malade. Non, il y a des détresses qui sont épouvantables. Des très grandes détresses. Et là, c'est très détaillé dans le bureau de bienfaisance, on voit le cas. Tous les cas sont détaillés. Et là, ben, ma foi, on dit une certaine année où il faisait très froid, où il y avait très peu de fruits, très peu de nourriture en somme. Et bien les gens se sont mobilisés, ils apportaient tous quelque chose, ils apportaient quelque chose, et on déposait tout ça à la cure.
On vivait comme on pouvait, quoi. On s'entraidait comme on pouvait. Et oui, on s'entraidait comme on pouvait.
Louis Pralut avec Claire Van Kyn pour la sortie de son livre « Vendrange, chronique d'une paroisse indigente ».
Eh bien écoutez, moi ce que j'ai envie de faire maintenant, j'ai envie de vous lire quelques, que j'ai pris comme ça, hein, par-ci par-là, quelques petits chapitres qui m'ont interpellé. Alors voilà, « État civil de 1828 ». Mort de Marie-Antoinette Dutel, 6 mois, en nourrice au lieu-dit Lapinée, fille de marchand de Saint-Jules-la-Pendu. Mort de Marie Saunier, 2 mois, en nourrice chez Chabry de Lachat, natif de Saint-Jules-la-Pendu. Par contre, mort de Jean-Marie Planet, âgé de 99 ans, mort au lieu-dit chez Planet. Alors là, on se rend compte, on est en 1828. Eh bien, en 1828, il y avait quasiment un centenaire quand même. C'est quand même rare.
Surtout que depuis, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein.
Ah bon, vous voyez, l'air était bon à cette époque-là. Alors, c'est pareil. Parmi les métiers, il y a des mariages entre des bonnes de Roanne, une ouvrière en coton de Saint-Victor-sur-Rhin, des filles de Saint-Marcel-de-Féline, Nau, Saint-Priest-la-Roche, Saint-Jules-la-Pendu. On indique s'il s'agit d'un locataire ou d'un propriétaire. C'était important de marquer un petit peu sa classe sociale, on peut dire.
Oui, absolument. Il y avait, on trouve aussi dans les registres, des hommes qui passent leur vie comme rentiers.
Ah oui. Donc, ils avaient hérité d'une fortune.
Ils étaient propriétaires. Et il ne fallait pas énormément d'argent, je pense, pour vivre. Donc il pouvait être rentier.
Voilà. Alors on a aussi, on trouve les métiers de journalier. Alors on a des cultivateurs, bien sûr, hein, à l'époque la France est rurale à 90% on va dire, hein. Mousselinier, donc vous nous aviez parlé, un mousselinier en grand nombre, possédant un petit, alors vous avez marqué entre parenthèses, possédant un petit atelier à la maison, puisque ça c'était un complément de salaire, on va dire. Il y a un maréchal ferrant, il y a un tailleur d'habits, vigneron, laboureur. Le laboureur, c'était une qualité. Quand on disait quelqu'un est laboureur, c'était un... On retrouve ça sur les registres, effectivement, on voit laboureur.
Oui. Je pense que le laboureur devait être... Je pense que c'était pas un métayer. Parce que la plupart, c'était des métayers. Donc, rien leur appartenait.
Et non. Tout à moitié.
Oui.
Et puis on a aussi des cabaretiers, bien sûr, effectivement propriétaires rentiers, comme vous veniez nous le dire. Et puis chez les parrains, un charpentier en bateau à Rouen. Eh oui, les charpentiers en bateau à Rouen, ne pas oublier.
Absolument.
Aussi cela. Eh oui, bien sûr.
Il y a
sûr.
Une rue des charpentiers.
Il y a la rue des charpentiers à Rouen, mais oui. Alors, je vais vous lire un... Voilà, c'est ce que vous nous expliquez justement que j'avais noté. Alors, je vais le lire à nos auditeurs. Ça va corroborer vos dires sur cette fameuse histoire de la chaise. Par ailleurs, le conseil de fabrique a décidé de punir ceux qui viennent à l'église avec leurs chaises, car il y a trop d'abus. Ah, mais des gardiens devront arrêter toutes les chaises et selon, puisque hein, il y avait des chaises. Puis nous, on appelait ça aussi des selons, c'est le petit tabouret.
Oui.
Hein, c'est des petits selons. Ouais. Portés du dehors et les confisquer à moitié. C'est ce que vous nous aviez expliqué. En cas de récidive, il y aura une amende de 15 sols pour une chaise quelconque, de 5 sols pour un selon. L'arrêté est affiché à la porte de l'église.
Alors, hein, donc, ils sont avertis.
Ils sont avertis. Alors, j'ai relevé des petites choses comme ça aussi. Avant la fête Dieu, on pèsera à la balance les bouts des cierges qui resteront et ils seront vendus 30 sols la livre au gros poids quand les cierges n'auront servi qu'une année et 1 franc 25 centimes quand les cierges auront servi deux années. Voilà. Et monsieur le curé prélèvera 1 franc pour l'honoraire du marguillier qui sonnera pour le grand service, voilà, etc.
Vous voyez qu'on faisait de l'argent avec des bouts.
Avec des bouts de cierge.
Et voilà, même avec des bouts de cierge.
Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de récupération, d'anti-gaspi, mais on n'a vraiment rien inventé, quoi.
Absolument. On n'avait pas beaucoup d'argent liquide,
oui.
Mais on payait avec ce qu'on avait.
Oui.
Avec les produits de la terre. Vous verrez à un moment donné, la paroisse de Vendrange doit un repas annuel aux chanoines de Lyon. Donc, comme à l'époque, ils étaient très nombreux, les chanoines, ils mangeaient une fois par an, enfin, peut-être pas une fois par an, j'en sais rien, mais enfin, pour ce qui concerne la paroisse de Vendrange, on devait leur payer un gros repas dans le cloître, dans le cloître de la cathédrale. Parce que les chanoines de l'époque, c'était pas tout à fait le même genre que les chanoines d'aujourd'hui. Bon, ils vivaient en communauté, les chanoines de Lyon, les chanoines comtes de Lyon.
Ah oui,
c'était leur
comptes,
titre. Ouais. Ils vivaient en communauté et on les appelait, c'est curieux, je savais pas ça, on les appelait les frères de Saint-Jean.
Et alors, est-ce qu'il y avait toujours cette petite guéguerre intestine entre les comtes du Forêt à l'époque et puis le clergé lyonnais? Est-ce que ça a perduré dans le temps, ça?
Oui, il y avait bien sûr. Il y a des rivalités qui n'en finissent pas, on le verra. Peut-être dans un autre livre, je ne sais pas.
Ah,
mais les guerres qui étaient presque permanentes entre, par exemple, une abbaye et une paroisse. Parce que, c'est très curieux, sous l'Ancien Régime,
oui.
Très souvent, c'était l'abbaye qui nommait, qui était nominateur à la cure. Et donc, les bénéfices de la cure allaient en partie à l'abbaye.
À l'abbaye.
Et il devait faire une ristourne au curé, quand même, l'abbaye en question. C'était l'abbaye de Cluny. Mais
hein. Oui,
dans
bah voilà.
Tout le Rouennais, c'était l'abbaye de Cluny.
C'était Cluny, bon. Hein, oui.
Et bien, le curé était obligé de faire des procès pour arriver à avoir deux sous de l'abbaye. C'était épouvantable, ça. Ça a été... On le voit.
Oh, mais il y a eu des vilaines choses qui se sont...
Sûr, alors, à Vendrange, non, c'était une exception. On ne dépendait pas d'une abbaye, on dépendait des chanoines comtes de Lyon.
Donc on
qui
rappelle
nominateurs à la cure.
Les Clunisiens, ce sont les bénédictins.
C'était l'ordre bénédictin.
Très puissant.
C'était, c'était inimaginable. La puissance qu'ils avaient, on ne peut pas l'imaginer.
D'où après les cisterciens qui sont arrivés pour essayer de remettre de l'ordre dans les choses, si on peut dire comme ça.
Ils ont fait, une contre-réforme.
Voilà. Alors, il y a un endroit aussi là où on parle un petit peu de la météo, on pourrait dire. La pluie est tombée. Alors là, c'est l'année 1843. La pluie est tombée continuellement toute l'année par intervalle quelques jours de chaleur. On a levé difficilement la récolte. Point de noix, point de poire, un peu de pommes, mais toutes tavelées par les pluies et petites. Peu de pommes de terre, peu de froment et en mauvaise qualité. Par contre, beaucoup de paille et de foin. Le blé, seigle et le froment avaient poussé trop vigoureusement. La première neige est tombée le 2 janvier 1844. En revanche, nous avions un brouillard général ici, à Paris, à Lyon, qui nous a tenus dans l'obscurité 25 à 30 jours et un givre sur les arbres épouvantable qui a brisé beaucoup d'arbres. Les limaces ont beaucoup ravagé et mangé les blés en semences et même les froments. Et là, on se rend compte, que ce curé qui avait tout noté, l'importance qu'il pouvait y avoir à l'époque, du temps. Le temps. Parce que on vivait des produits de la campagne, des produits de la ferme. Et quand il n'y avait pas de récolte, c'était la famine, c'était la misère.
Absolument.
Les petites chroniques de notre histoire sur RVR.
Alors, on va parler maintenant, on a déjà bien papoté, on a fait le tour pas mal de choses. On va parler maintenant justement un petit peu de ce petit livre. Alors, combien de pages ?
120 pages.
Voilà, alors 120 pages. Donc l'illustration, comme on l'a dit, mais on va le répéter quand même pour nos auditeurs qui nous prendraient en cours de route. Chronique d'une paroisse indigente 1614-1939, Vendrange, donc écrit par Louis Pralu, qui a été journaliste toute sa vie, comme on l'a expliqué au journal L'Essor. Donc, sur la couverture, c'est un brave petit père curé en soutane devant la porte de l'église de Vendrange avec son chien qui s'appelait donc Vidocq, qui est couché à ses pieds. Et en quatrième de couve, on a la vieille dame habillée toute de noir auprès de son curé. C'était la bonne de cure, comme on disait à l'époque. Mmh. Voilà. Le tarif de ce petit livre, vous nous rappelez le tarif ?
C'est 15 euros.
Voilà.
Il est en vente à la librairie.
Voilà. Alors justement, je veux dire, où peut-on se le procurer ? Alors, bien sûr, chez vous directement.
Ah ouais, chez moi,
chez
sûr.
Vous directement. On peut rappeler votre numéro de téléphone ?
Oui.
Alors, c'est le 04 77 64 94 07. Donc, directement chez l'auteur à Vendrange, Louis Pralu.
On peut même dire le mail aussi.
Oui, on va dire le mail. Donc, c'est Louis, le prénom, Louis, tout simplement, point Pralu, P-R-A-L-U-S, @wanadoo.fr. Donc, ce petit livre est en vente à 15 euros et vous le trouvez aussi à Roanne, rue piétonne, à la librairie Un Monde à Soi. C'est la rue Charles de Gaulle, la rue piétonne. Donc, la librairie Un Monde à Soi, pour les gens qui ne diraient qu'est-ce que c'est cette librairie, c'est tout simplement la petite Valérie Rochette qui a racheté la librairie Mayol, que tout le monde connaît, bien sûr. Chez Mayol, tout le monde connaît. Donc, on trouve ce petit livre de Louis Pralu à la librairie Un Monde à Soi, anciennement Mayol, rue Charles de Gaulle. J'ai envie de vous poser quand même une toute dernière question. Avez-vous déjà eu quelques échos de vos premiers lecteurs et quels sont-ils ?
Oui. Alors oui, c'est des échos qui viennent de Vendrange d'abord, mais pas seulement de Vendrange. J'ai été assez surpris de voir qu'il y a autant d'acheteurs de Neulise que de Vendrange.
Peut-être parce qu'ils ont aussi des racines vendrangeoises. Pas forcément,
mais ça les intéresse. Bon, ceux qui aiment l'histoire, intéresse.
Oui, il faut l'histoire, mais l'histoire.
Les gens sont surpris de trouver autant de détails.
Moi-même, j'ai été surprise, effectivement, parce que c'est un travail absolument colossal dans les dates, dans la précision.
C'est vraiment des actes authentiques. Donc, j'ai rien inventé, j'ai rien ajouté, j'ai rien retranché.
Oui.
J'ai juste transmis. Et puis, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance pour réaliser ce livre. Parce que Claire Vankeen m'a indiqué les bonnes personnes. Et ça, je crois que c'est vraiment précieux.
Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose qui vous fait plaisir? Voilà, quelque chose.
Oh, je peux dire que je suis très, très heureux d'être là. Et puis, très heureux que ce soit diffusé sur RVR, puisque c'est la radio qui vraiment inonde notre territoire. Hein.
Bien sûr, et oui.
La radio près de chez nous.
Oui, proche des gens.
Proche, tout proche. Donc c'est très bien que ce livre soit annoncé ici. C'est très bien.
Et ben c'est bien. Ben nous, on a été ravis de vous rencontrer, Louis. Et puis, on va bien sûr souhaiter bonne chance à ce livre. Je rappelle le titre, Chronique d'une paroisse indigente, Vendrange, 1614-1939, donc de Louis Pralu. Je répète que vous pouvez le trouver soit chez l'auteur, soit directement à la librairie Un Monde à Soi, rue Charles de Gaulle. Le Monde à Soi, c'est anciennement Mayol.
Merci beaucoup pour ce moment.
Merci Louis.
C'était Claire Vankeen avec Louis Pralu dans les petites chroniques de notre histoire sur RVR.